Homme.
Les échos de Vacarme. Les échos de Vacarme. Les échos de
Nos sols sont-ils en péril ?
Laurence Di Félix. Véronique Marty.
Écoutez, la question est de savoir qui est responsable de la dégradation du sol. Moi, j'ai l'impression que plusieurs acteurs sont responsables. Tout d'abord, les clients qui achètent des carottes et des pommes de terre et des légumes qui sont calibrés. Deuxièmement, les agriculteurs, mais on ne peut pas leur jeter la pierre. Si un agriculteur vend son produit alors que l'autre ne le vend pas pour préserver son terrain, il doit vivre, le pauvre. Ensuite, alors, les entreprises comme la Migros, la Coop, les grands distributeurs, eux, je pense, sont extrêmement responsables parce que c'est eux qui payent les produits. Donc, c'est un jeu de « tu me tiens, je te tiens par la barbichette ». C'est on se rejette la faute les uns sur les autres. Les grands distributeurs disent « oui, mais c'est les clients qui veulent ». Les clients disent « mais on nous livre ceci ». Je pense qu'il faut réfléchir un tout petit peu de manière sérieuse au problème pour trouver une solution à cette question.
Je voulais vous signaler par rapport à votre émission de hier et aux cultures hors sol, il faut quand même admettre que tous ces légumes cultivés hors sol se gardent nettement moins bien, ça se garde plus comme dans le temps.
Pour avoir mangé des tomates hors sol, ça n'a aucun goût.
Le marché du bio, qui est très prometteur, l'est et est favorisé par nos amis gros distributeurs, parce qu'ils gagnent beaucoup plus sur une pomme de terre bio que sur une pomme de terre conventionnelle. Donc le producteur va lui toucher peut-être le double du prix pour ses pommes de terre biologiques. Mais si on regarde la différence de prix, la marge qui est prise par le gros distributeur, alors la marge, au lieu d'être doublée, on prend une marge nettement supérieure. Les supermarchés, on profite beaucoup plus.
Ça fait 40 ans que dans la région, il y a du monde qui travaille pour la vie du sol, parce qu'un paysan n'est pas riche grâce à la surface qu'il cultive, mais grâce à la qualité du sol qu'il fait vivre.
Je trouve que c'est grand temps que les médias attirent l'attention sur l'importance des sols. Moi, j'aimerais rajouter que le sol, il est vivant, mais comme le sol, il n'est pas transparent, on ne peut pas observer cette vie. Dans un hectare de prairies naturelles vivent 2 tonnes de vers de terre en moyenne. Et si on passe dans un sol cultivé, 75% de cette biomasse disparaît. Alors, je vous remercie pour votre émission.
Bonjour à tous. Et oui, cette semaine, dans Vacarme, nous avons posé nos micros au ras du sol pour comprendre comment se porte cet élément essentiel, mais parfois oublié, de l'écologie et de la biodiversité. Les pesticides, les engrais, les labours, les passages en tracteurs, les cultures continues, tout a contribué ces 50 dernières années à épuiser nos sols. Peuvent-ils s'en remettre ? Peut-on s'en passer pour cultiver ? Qu'en pensent les agriculteurs qui sont souvent pointés du doigt quand il faut trouver un coupable à l'érosion, l'appauvrissement, la surexploitation ? Ce matin, dans les échos de Vacarme, nous repartons sur le terrain, au chevet de nos sols. Nous parlerons humus, rotation des cultures, couverture végétale. Nous parlerons aussi de culture hors sol et de politique agricole. Avec vous, Elena Havlicek, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes collaboratrice scientifique section sol de l'Office fédéral de l'environnement. Vous êtes biologiste. Vous êtes pédologue, spécialiste des sols. Sol, est-ce que c'est le parent pauvre de l'environnement, de la nature, des politiques ?
Alors, c'est un élément qui est dans tous les milieux, terrestres, mais c'est un parent pauvre.
C'est vrai,
pauvre.
Sol, le sol est partout.
Alors, le sol est partout.
Et pourtant, on s'en préoccupe pas suffisamment, vous diriez.
Alors, effectivement, on pourrait dire que le sol est un sombre inconnu. Il est sombre parce que, il est noir, il est en profondeur, il est inconnu, et ça, c'est quelque chose que l'on peut rattacher à ce que disait déjà François Terrasson dans un livre qui s'appelle La peur de la nature. Il montre bien que tous les milieux sombres, les marais, l'eau, etc., ces milieux que l'on voit pas, ils font peur. Alors ça, c'est une des choses qui fait qu'il est inconnu. L'autre que l'on ne réalise pas, c'est que c'est une usine biologique. Et ça a été relevé dans un des messages que vous avez eus. Au fond, on ne réalise pas que le sol ne peut pas être stérilisé comme l'air et l'eau. Un sol est fabriqué par les êtres vivants. C'est vraiment un produit d'une usine biologique.
Et comme le relevait un de nos auditeurs, ça ne se voit pas parce que c'est en profondeur, vous le dites aussi, c'est sombre et c'est peut-être aussi pour ça, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on s'en préoccupe peu, c'est peut-être moins vendeur qu'un joli animal ou un beau végétal.
Oui, c'est une question, en fait, on doit acquérir ces connaissances et on doit les porter au public. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on ignorait le fonctionnement réel de l'estomac. Aujourd'hui, on parle du biome de l'estomac, etc. On s'y intéresse. Eh bien, Aristote disait déjà, les plantes, pour eux, le sol, c'est l'estomac des plantes. Et c'est vrai que l'analogie, elle est très forte, puisque c'est les bactéries qui vivent dans le sol, qui aident, qui sont indispensables même à la production végétale, donc alimentaire, etc. Et puis, une autre chose qui fait que le sol est un parent pauvre, c'est aussi une question de propriété. Jusqu'à présent, le sol c'est un bien privé, la plupart du temps. Il a un propriétaire. Et puis, le propriétaire peut faire ce qu'il veut sur les sols. Donc, un agriculteur, évidemment, lui, il tire son revenu économique du sol. Mais le sol donne aussi, il a pas seulement une fonction de production, la biomasse végétale donc dont on se nourrit, mais il a également des fonctions de régulation de climat, de régulation de l'eau.
Et ça c'est collectif.
Mmh. Et au fond, comme les forêts qui sont ce qu'on appelle un bien commun hybride, on peut avoir un propriétaire, mais les fonctions du sol, c'est un bien commun, ça bénéficie à l'ensemble de la population.
Mmh. En duplex, avec nous également ce matin pour parler jusqu'à 10h, Jacques Bourgeois, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes conseiller national PLR, directeur de l'Union Suisse des Paysans. Quand vous entendez Elena Havlicek parler du sol comme un bien commun hybride, vous, ça vous parle?
Alors je dirais que c'est un bien précieux, comme ça a été relevé tout à l'heure, un bien vivant. Et je crois que pour nous, l'agriculture suisse, c'est important d'avoir un sol qui se développe sur un axe de la durabilité, puisque ça a été relevé. C'est notre base de la production de denrées alimentaires que nous offrons aux consommateurs de ce pays.
Mais l'aspect collectif des sols, pardonnez-moi Jacques Bourgeois, l'aspect collectif, tout n'appartient pas à un seul propriétaire. Il y a aussi une fonction de régulation.
Bien sûr. Il n'y a pas seulement la fonction de régulation, mais il y a aussi la fonction de support à l'habitat. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas seulement la qualité, je dirais, que l'on a sous nos pieds qui nous préoccupe. Et là, je dirais aussi ce qui nous manque à l'heure actuelle, c'est que on a supprimé en 1996 le service de cartographie des sols et ça fait cruellement défaut à l'heure actuelle. Il faut réinstaurer un centre de compétences au niveau des sols pour pouvoir avoir une meilleure vue d'ensemble de cette qualité des sols et une meilleure gestion. Maintenant, pour revenir sur l'aspect qualitatif, il n'y a pas seulement l'aspect qualitatif, mais il y a aussi l'aspect quantitatif. Là, je tiens à préciser, le sol il est convoité non seulement pour la production d'or alimentaire, donc au niveau des propriétaires terriens que sont les agricultrices et agriculteurs, mais il y a aussi ces espaces de détente, ces collectivités publiques, et ce que l'on s'aperçoit, c'est que du côté de l'agriculture, nous avons un sol qui se dérobe à l'heure actuelle sous nos pieds, au rythme de 1 mètre carré par seconde, c'est l'équivalent de 8 à 10 terrains de football par jour que nous perdons.
Et, au profit de la construction.
Au profit de la construction, au profit de la mobilité, au profit d'espaces de détente, de toutes sortes de, je dirais, que le sol est convoité par toute notre société pour différentes activités. Et si on regarde le quart de siècle, au cours de ce dernier quart de siècle, nous avons perdu l'équivalent, par exemple, de la superficie du canton de Neuchâtel.
Ce que vous voulez dire, c'est que l'agriculture donne déjà son obol au collectif de cette manière-là.
Je dirais que non seulement donne l'obol, mais je crois que ce que l'on doit se préoccuper, c'est comment est-ce que l'on veut protéger ces sols? Comment est-ce qu'on veut protéger ces terres cultivées à l'avenir? Parce qu'on ne pourra pas continuer de bétonner à tout va. Et je pense qu'il faut se faire des réflexions. Il y a eu déjà une première piste qui a été développée dans la révision de la loi sur l'aménagement de territoire en voulant mieux densifier l'habitat. Je pense que c'est juste de le faire. On peut dans nos villes faire des bâtiments plus en hauteur, densifier pour pouvoir justement préserver ce sol qui nous est cher.
Alors on disait le sol parent pauvre. Et pourtant, il est extrêmement concernant. J'en veux pour preuve un extrait d'une archive tirée de nos trésors. trésor d'archives que nous avons à la RTS, un temps présent qui date de 1971, qu'on a mis en lien sur notre page Facebook, la page Facebook de Vacarme. Nous l'avons mis en ligne dimanche soir dernier et depuis, cette archive a fait un nombre de vues, j'allais dire incalculable, mais non, il est calculable puisqu'il y en a plus de 500 000 et c'est tout à fait inhabituel. Je vous propose qu'on en écoute un extrait.
Les grands principes de ma culture biologique, c'est premièrement, comme je vous ai dit, mieux soigner la fumure organique. La deuxième, faire que des labours superficiels. Nous ne bêchons pas et au printemps, nous passons simplement le motoculteur à 4-5 cm au plus de profondeur. Si je fais une coupe transversale dans la forêt, eh bien, nous avons d'abord la couche de couverture, les feuilles, les aiguilles, tout ce qui tombe des arbres. Dessous, nous avons la couche de décomposition ou de fermentation. Et la troisième couche, c'est l'humus, la meilleure partie de la terre végétale. Maintenant, pourquoi pas bêcher profond? C'est que chaque couche a des milliards de bactéries ou d'ouvriers, des spécialistes qui travaillent cette couche, qui ne se supportent pas d'une couche à l'autre. Alors, comme chaque couche a des spécialistes pour travailler cette couche, si je prends une bêche et que je bêche à 30-40 cm de profondeur, je crée un désordre dans le sol. La troisième, c'est éviter la nudité du sol. Et la quatrième, c'est redonner à votre terre les éléments de trace.
Voilà, c'est une archive de 1971, un certain monsieur Poffet qui a fait plus d'un demi-million de vues en une semaine, 20 000 partages, des milliers de réactions, des centaines de commentaires sur notre page Facebook. On sent vraiment un engouement des internautes, de la société aujourd'hui, pour ce qui touche à l'écologie évidemment, mais qui touche précisément là au sol. Ça vous étonne, ça vous réjouit sans doute, Elena Havlicek?
Alors ça me réjouit que...
Est-ce qu'il se passe quelque chose?
Je ne sais pas... Comment on peut dire qu'il se passe quelque chose? Si vous voulez, ça, c'est la pression, effectivement, la conscience du consommateur, comme Monsieur Bourgeois l'a relevé, puis que ça a été relevé, c'est extrêmement important. Mais au fond, ça ne m'étonne pas. Ce qui se passe ici, ce que dit ce Monsieur Poffet, c'est ce que les agriculteurs ont expérimenté depuis le néolithique. C'est-à-dire, plus on se rapproche du fonctionnement naturel, mieux ça fonctionne, justement.
Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on avait perdu, justement, depuis une cinquantaine d'années, et que ce monsieur Poffet, en 1971, prêchait peut-être un peu dans le désert?
Oui, on l'avait perdu. Il y a un tournant, effectivement, après la guerre, où l'agriculture devient beaucoup plus dépendante de l'industrie. On peut même parler d'agriculture industrielle, et où, probablement, l'agriculteur est spolié. Il n'est plus le maître de son terrain. Il devient dépendant de l'agrochimie, en fait.
Jacques Bourgeois, une réaction peut-être à ce commentaire d'Elena Havlicek?
Moi, je dirais que, bon, on vient pas, je dirais, des chauffeurs de multinationales, quelles qu'elles soient. Je crois que chaque agricultrice, agriculteur sont des indépendants, veillent à produire dans les meilleures conditions possibles. Je tiens à préciser qu'en 1971, lors de la diffusion, ça reste toujours d'actualité dans le sens de veiller à avoir la plus grande proportion de matière organique du sol, d'humus. Hein. On sait que ceci a un rôle très important dans le captage du CO2. On parle beaucoup de climat ces
derniers
temps.
Oui, mais depuis 50 ans, l'humus a plutôt tendance à se rétrécir. Hein.
Oui, bon, ça dépend de tout par rapport à quel type de sol aussi dans lequel on se trouve. On a aussi différents types de sols en fonction des différentes régions. Vous pouvez avoir des sols calcaires, vous pouvez avoir des sols argileux, vous pouvez avoir des sols sablonneux. Donc là, il faut tenir compte de ces différents type de sol. Et c'est la raison pour laquelle ce monitoring que nous exigeons pour la cartographie des sols est très importante pour pouvoir avoir cette gestion durable. Maintenant, pour les prestations écologiques requises, il y a quand même eu des évolutions depuis 1971 où nous produisons selon des critères qui ménagent au mieux le sol. Nous avons maintenant de plus en plus de semis directs qui se fait pour éviter un certain nombre de passages aussi. On parlera tout à l'heure peut-être...
C'est ça, les passages de tracteurs qui compactent
le sol, etc. Donc d'éviter le nombre de passages au strict minimum. Et dans ce contexte-là, il faut aussi dire que nous avons dans la rotation des cultures, nous avons des rotations qui sont basées sur quatre rotations, c'est-à-dire qu'une culture, on va parvenir à partir que de la quatrième, cinquième année dans le contexte de cette rotation. Et nous avons aussi dédié une partie de nos superficies à des superficies de surface de compensation écologique. Hein. C'est une moyenne de 7% des exploitations qui doivent être en surface de compensation écologique. Et actuellement, on est autour de 13 à 14% en moyenne. Donc, c'est une preuve que nous nous soucions par rapport à l'avenir et surtout par rapport à cette question de qualité au niveau du sol. Est-ce que j'aimerais dire aussi peut-être par rapport au niveau des 36% de la superficie que nous exploitons de ce pays, 70% sont couvertes de surfaces vertes. Donc, on peut bien s'imaginer, on est un pays montagneux, un pays avec des prairies, je dirais, permanentes, des prairies artificielles. Donc, une bonne partie de notre pays est couverte par des surfaces vertes.
Elena Havlicek, est-ce que les agriculteurs aujourd'hui, à votre sens, ont un respect suffisant des sols? Est-ce que leur manière de travailler correspond, alors peut-être pas exactement à ce que disait Monsieur Poffet en 1971 ou que préconisent aujourd'hui certains agriculteurs vraiment tournés vers le bio, mais est-ce que la façon de cultiver qu'on a aujourd'hui dans l'agriculture traditionnelle, elle est suffisamment respectueuse des sols?
Je ne crois pas qu'on puisse dire les agriculteurs comme étant une masse homogène. Si je dis les ingénieurs, ben voilà, il y a des bons ingénieurs, des mauvais, ceux qui sont conscients, etc. Chez les agriculteurs, c'est la même chose.
Alors, quelle est la proportion d'agriculteurs conscients, si tant est qu'on puisse la chiffrer?
Alors ça, je peux pas vous dire. C'est des choses que je n'ai pas. Mais ce qui me paraît extrêmement important ici de dire, c'est comme ça a été relevé dans vos émissions, c'est que l'agriculteur, il n'est plus le seul maître à bord. Il est dépendant de la grande distribution qui gère au fond ce marché et qui l'oblige parfois à compacter le sol parce qu'il doit livrer ses légumes à un certain moment qui est défini dans un contrat. Donc il est dépendant de ceci.
Il est entre le marteau et l'enclume, entre la grande distribution et le consommateur qui souhaite aussi avoir, on le disait au début d'émission, peut-être des carottes calibrées, des tomates au mois de janvier. Ça, ce sont aussi, est-ce que ce sont des vraies demandes ou est-ce que finalement c'est un peu un cercle vicieux qui fait que les produits étant là, la demande existe et la demande existant et grandissant, les produits arrivent de plus en plus?
Oui, ce que vous dites, bah voilà, j'ai rien à rajouter, c'est bien ça.
C'est bien le constat que vous faites aussi.
Mais oui, bien sûr. Et ce qui me paraît important, au fond, aujourd'hui, en tout cas, en ce qui concerne les sols, c'est qu'on ne doit pas se figer dans des postures. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'aurais la posture, je défends le sol, uniquement le sol, l'agriculteur, je défends ma production, et puis telle autre personne défend autre. On a des valeurs communes que l'on partage. Et avec des agriculteurs, on partage des valeurs qui sont la gestion durable des sols. Et je pense à un projet qui est actuellement en cours dans le canton de Vaud, qui s'appelle Progrès Sol, qui est un projet qui rejoint, qui met ensemble les agriculteurs et les chercheurs dans le domaine du sol. Et au fond, l'idée de base de ce projet, c'est de faire descendre l'agriculteur de son tracteur et de faire sortir le scientifique, le pédologue, de son laboratoire, et que l'on discute. Et au fond, ils sont en train maintenant de préparer une espèce de valise d'outils virtuels, mais aussi des outils concrets que les agriculteurs eux-mêmes peuvent utiliser pour voir quel est l'état de leur sol et trouver des solutions pour l'améliorer.
On entendra justement tout à l'heure une réunion entre paysans et scientifiques, mais je vous propose tout de suite que nous allions tout d'abord dans le Zeeland, dans la région des Trois Lacs, cette vaste zone agricole qui quand même connaît quelques difficultés, en tout cas où l'humus est en train de se raréfier. Catherine Erard y a rencontré Matthias Schwab, agriculteur à Gals, tout près du canal de la Thielle, et cet agriculteur nous emmène sur un de ses champs. Nous sommes du côté Dins.
Il faut s'imaginer, à l'époque, la route, elle avait la même hauteur que le champ. Puis là, je pense, on a légèrement perdu un mètre de hauteur. Puis ça nous cause vraiment des problèmes parce qu'on a ces bosses que, quand il y a des orages, par exemple, en été, c'est tout de suite plein de l'eau. Puis ça nous fait de crever les pommes de terre, des carottes, par exemple. Ouais.
Alors là, vous prenez un petit bout de terre.
Là, j'ai un petit bout de tourbe. Ça, c'est vraiment la tourbe.
Ça, c'est la tourbe.
La tourbe qui est à l'air, elle est comme une éponge.
Arrivez un peu à la défaire. On voit comme des petites feuilles, voilà.
Quand c'est mouillé, ça tient. Puis maintenant, quand on tourne ça à l'extérieur, ça se décompose très, très vite. Puis c'est vraiment pas ce qu'on veut. Mmh. Donc la difficulté pour nous, c'est un peu qu'on... on devrait avoir 50-60 cm de hauteur de humus pour cultiver. On ne veut pas toucher la couche de tourbe en dessous.
Là, sous ce champ, il vous reste quelle hauteur de tourbe?
Alors là, je dirais que c'est maximum 20 cm de couche de tourbe. Après, on est dans le sable. On est assez stable. Ouais, ce qui compte maintenant, c'est qu'on peut encore conserver ces 20 cm. Par exemple, l'année passée, j'avais des pommes de terre, j'ai labouré. Maintenant, j'ai ressemé de l'herbe. Puis ça va rester 3 ans sans toucher. Je mets chaque année plusieurs fois le lisier. 20 ans en arrière, on aurait eu des pommes de terre, on aurait récolté, on n'aurait rien semé. Parce que c'était quand même au mois d'octobre. Puis moi, j'ai fait un effort. Je me suis dit, je vais essayer de couvrir le sol quand même le plus possible.
Vous allez me dire un peu ce que c'est ce champ là-bas. Alors, on voit de la paille hein, dessus.
Ça, c'est quoi? Ouais, ça, c'est du fumier.
C'est du fumier que vous avez mis.
Qu'on a emmené pour... la structure pour comme engrais, quoi. Ouais. Là, il y aura du maïs l'année prochaine.
Là, on voit les roues de tracteur. Mm-hmm. Est-ce que là, vous avez aussi des problèmes de tassement de sol, des fois?
Les problèmes de tassement, ça, c'est souvent un problème quand c'est humide. Quand on est obligé de travailler, de rouler. Le problème avec le tassement, c'est dans un sol normal, on a toujours des couches et puis des... Entre deux, c'est vide. Mm-hmm. Puis il faut ces espèces pour les animaux, pour les microbes, pour tout ça. Puis si on l'entasse, on perd tout ça. Et puis entasser, c'est vite fait. Mais refaire, ou bien, comment je veux dire, améliorer, ça prend beaucoup de temps.
Voilà, le Zéland, Elena Havlicek, est-ce que c'est une zone agricole en voie de disparition?
Oui. Oui, on peut le dire. C'est une, en tout cas, dans sa manière de gérer les sols actuellement.
C'est pas récupérable?
Non.
Même pas. Avec le temps, parce qu'il disait, l'agriculteur alors, Mathias Schwab disait avec le temps, mais ça prend du temps. Il y a un problème de temporalité peut-être aussi entre la reconstitution des sols et le temps plus politique?
Alors, il y a bien sûr ce problème de temporalité, mais si on prend les sols sur tourbe, donc ces sols qui ont été extrêmement productifs dans les premières années, une fois qu'on a drainé et qu'on a abaissé le niveau des nappes d'eau, ça concerne donc le Zéland, mais ça concerne également la plaine de l'Orbe, c'est vraiment des espaces énormes. Et puis, au fond, on a changé la dynamique du milieu. Quand vous enlevez l'eau, ça veut dire que l'air pénètre dans le sol, il est formé essentiellement de matière organique qui était conservée parce qu'il y avait de l'eau. Au moment où l'air arrive, les microbes arrivent et ils détruisent cette matière organique en relâchant du CO2. Donc, double perte, la perte du sol et...
augmentation du CO2 dans l'atmosphère.
Voilà. Et puis, ces sols, cet agriculteur dit qu'il lui reste 20 cm. On sait qu'il y a des endroits, c'est jusqu'à 2 mètres. Donc, aujourd'hui, on a 2 mètres de moins. Donc, il y a le problème du tassement physique, ça c'est une chose. Mais ici, il s'agit de disparition. Et le Programme National de Recherche 68, qui a travaillé sur l'utilisation durable des sols, dit très clairement qu'une utilisation agricole qui serait climatiquement neutre et durable des sols, ce type de sol organique, elle n'est pas possible. Et le changement climatique va accentuer ce phénomène. Donc on sait que de cette manière-là, on ne peut plus continuer de les exploiter. On doit trouver d'autres moyens. Il existe des solutions, hein, mais en tout cas pas de la manière dont on le fait aujourd'hui.
Jacques Bourgeois, le Zéland, c'est une mine d'or qu'on a surexploité, qu'on a gaspillé, dont il va falloir se passer.
Je dirais c'est notre jardin potager de notre pays, hein, donc le Zéland, on le sait, par rapport à la production de légumes avant tout, et c'était des anciennes tourbières. Alors effectivement, en voulant recultiver, prendre ces superficies, il y a eu un tassement, c'était dit tout à l'heure, un tassement de ce sol, et puis lorsque ce sol est mis à nu, il y a aussi une érosion qui se fait aussi par le vent, surtout avec la tourbe, hein, donc matériau très 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 léger. Effectivement, c'est préoccupant. Maintenant, ça nécessitera des décennies certainement. Il faut prendre des mesures.
On a fait des erreurs.
Les erreurs, c'est-à-dire que nous avions bien évidemment une bonne partie de notre pays était des marécages que l'on a drainés pour pouvoir produire des denrées alimentaires. Je rappellerai qu'on produit quand même que 55% de notre taux d'approvisionnement de ce pays par rapport. Donc ça veut dire qu'on est tributaire déjà pour l'importation pour une denrée alimentaire sur deux que nous consommons.
Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup dit aux paysans produisez et produisez plus.
Ben c'est-à-dire qu'il y avait la phase produisez, on se chargera du reste, et cette phase elle est révolue à l'heure actuelle, et nous produisons en fonction des besoins, en fonction des attentes des consommateurs, en fonction de la qualité, et surtout aussi c'était évoqué tout à l'heure, je pense que l'on doit avoir une attention plus particulière par rapport à la saisonnalité de nos produits. Je crois que c'est aussi important que les consommateurs puissent faire leur choix en toute connaissance de cause, une déclaration sans faille de ces produits pour qu'ils puissent donner une préférence à des produits locaux plutôt que des produits venant je ne sais où de cette planète.
Et est-ce qu'il y a des regrets de la part des agriculteurs de voir ce Zeeland disparaître, de l'avoir peut-être mal exploité à une période ?
Je ne crois pas qu'on peut dire que c'est une mauvaise exploitation à une période. Automatiquement, si vous êtes sur une surface avec ancienne tourbière, il y a un tassement qui se fait. Après, il y a eu des mesures qui ont été prises pour éviter l'érosion par le vent, en mettant des haies pour justement éviter cette emprise du vent sur ce sol-là. Et maintenant, il faut réfléchir comment est-ce que l'on peut ramener les proportions d'humus. Mais le sol, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est sur des décennies, voire des centaines d'années, mais il faut que l'on prenne les mesures pour pouvoir garder, je dirais, ce sol important à la production d'un alimentaire dont on bénéficie tous les jours.
Elena Havlicek.
Oui, je crois qu'ici, il faut avoir le courage de dire que voilà, on ne peut plus exploiter ces sols comme ça d'ici tout au plus 100 ans, ils auront disparu. Et là, l'agriculteur, une fois de plus, c'est la preuve qu'il n'est pas tout seul. Au fond, là, il est, entre guillemets, victime d'une société, à un moment donné, donc dans la deuxième moitié du 19e siècle, il est partie prenante d'une société qui devient technocratique, et on trouve des solutions technologiques. Et on se dit, justement, et on le comprend très bien, la sécurité alimentaire, c'est essentiel. Donc on va drainer ces sols pour pouvoir produire. Ce qu'on ne réalise pas à ce moment, c'est que ça ne peut pas, si vous voulez, on mange ce sol, on le détruit irrévocablement. Le seul moyen de les conserver aujourd'hui, c'est de les mélanger avec de la matière minérale pour stabiliser cet humus. Mais ça, c'est des travaux énormes.
Mmh. Jacques Bourgeois.
Oui, tout à fait. Donc, je crois que effectivement, même si ce sont des travaux énormes, je crois qu'il faut les entreprendre parce que c'est important de pouvoir en partie garder la main sur le contenu de nos assiettes. Hein. C'était dit tout à l'heure, les grands distributeurs qui font parfois la pluie et le beau temps par rapport à cette dépendance de l'étranger. Je crois qu'on a voté récemment, le peuple suisse s'est prononcé en 2017 sur ce nouvel article constitutionnel sur la sécurité alimentaire et il a clairement démontré en plébiscitant ce nouvel article constitutionnel qui veut garder en partie la main sur le contenu de son assiette. Et pour évoquer aussi les différents programmes qui sont mis en place, et c'était cité tout à l'heure le canton de Vaud, sauf erreur, par rapport au niveau des programmes. Il y a d'autres cantons qui ont mis en place des programmes, par exemple le canton de Jura de Berne qui a lancé un programme Terre Vivante justement pour améliorer la structure du sol, ou le canton de Soleure pour justement un programme de ressources humus pour se concentrer sur cette matière organique absolument nécessaire.
Donc il y a vraiment des prises de conscience, Elena Havlicek, ça vous réjouit?
Oui. Alors, ces prises de conscience existent, et puis il faut bien se rendre compte que pour les agriculteurs, c'est un crève-cœur. Et moi, je le comprends très bien, c'est une terre qu'ils ont héritée de leurs parents, et puis ils la voient disparaître. Maintenant, j'ai le souvenir d'avoir discuté avec un agriculteur dans la plaine de l'Orbe, qui s'est retrouvé dans une telle situation, il ne pouvait plus, certaines années, il pouvait bien exploiter, mais si c'était pas une bonne année, en fait, il perdait tout, et il a mis une partie de ses surfaces en compensation écologique. Et un autre projet qui est actuellement en cours, c'est trouver des solutions hybrides. Remonter la nappe d'eau pendant la période où l'on ne produit pas, donc printemps, automne ou hiver, qui permet d'offrir ceci comme milieu de transition pour les oiseaux migrateurs. Et puis pendant la période de culture, on rabaisse la nappe d'eau et on peut l'exploiter. Ça ralentit le processus de dégradation, ça ne le stoppe pas.
Nous parlons des sols dans les échos de Vacarme ce matin avec Elena Havlicek et Jacques Bourgeois. On se retrouve juste après Big Yellow Taxi sur la première. Joni Mitchell.
They paved paradise, put up a parking lot. With a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Trees, put them in a tree museum, and they charge the people a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go.
Oh, on va dedans, je pense, non.
L'objectif, c'est où est-ce qu'on en est dans l'agriculture bio de conservation. La base, c'est ces trois piliers de base. C'est réduction du travail du sol, couverture permanente du sol, et puis ces couverts végétaux, quoi. On parle de semi-direct, c'est un moyen. Les couverts végétaux, c'est un moyen. La rotation, c'est un moyen. Donc là, c'est trois moyens qui permettent quoi? Et c'est ça le truc, c'est d'avoir un sol fertile, quoi. Auto-fertile, qui fonctionne, etc., etc. Puis si on regarde ces dernières années, il me semble, mais ça, ce serait le premier point de discussion, on a vécu trois étapes. On fait du semi-direct parce qu'on a des paiements. Ça ne fonctionne pas. On introduit les couverts végétaux. Là, il y a eu du magnifique développement. On a peu parlé de la rotation, mais là, il y a peut-être des progrès.
Il y a un quatrième point, c'est tout le problème de la mauvaise herbe en bio. On est quand même un pays à herbe, je t'ai déjà expliqué 10 fois. C'est que chez nous, l'herbe, ça pousse. On n'est pas dans des zones arides où l'herbe ne pousse pas, quoi. Donc, un conventionnel, c'est relativement facile en jouant le frein avec la chimie. En bio, eh ben, là, il y a un vrai défi. Et puis, je vois encore pas tout à fait clair.
Alors oui, il y a la gestion des adventices. Est-ce que j'ose travailler le sol ou pas? C'est ça qui t'embête ou...
Non, mais ça ne m'embête pas. Moi, j'ose travailler le sol. J'ai aucun problème avec ça. Je suis très au clair. Quand il faut, il faut.
Mais c'est ça qui est génial. Parce qu'on est dogmatique. On dit le semi-direct. Mais c'est bien. Il a fallu passer par là. Il ne faut pas regretter la chose. Mais je pense qu'il faut qu'on passe à l'étape suivante. Voilà. C'est une notion de profondeur. C'est une notion de manière de chambouler. C'est aussi une notion de timing. Quand tu viens à certaines périodes que ton sol il est sous un cagnard, puis que tu travailles le sol, puis qu'il reste nu pendant tout l'été. La question, elle est peut-être aussi là. Rien que de transmettre ce message aux collègues, de leur dire « vous avez le droit de toucher le sol en surface, puis vous continuez à appliquer des bonnes pratiques en agriculture de conservation », si on arrive à montrer ça, moi, il me semble qu'on progresse, bah, ça décoince. Vous avez le droit de cultiver des pommes de terre de temps en temps. Non, mais te rends compte.
Ce qui est important, c'est de mettre un contre-balance, de mettre la non-utilisation de produits de synthèse chimique.
Ouais.
Qui, on voit leur action sur le sol, sont néfastes. Mmh. Donc, on n'utilise plus ça, mais on travaille juste 4 cm. Et là, on est dans l'ABC, à mon avis.
L'ABC ?
Agriculture biologique de conservation.
Ouais, mais c'est vrai, il y a un fait
qu'on observe, c'est chaque fois qu'on stresse l'agriculteur, c'est au détriment de son sol à la fin. Typiquement, livre-moi 10 salades pour demain matin. S'il pleut, le sol est foutu. Eh ben, l'agriculteur va livrer les 10 cajots de salades, qu'importe le sol. Et quelque part, on devrait avoir une assurance quand on dit stop. On n'est pas du tout dans ce modèle-là.
Il y a toujours un agriculteur qui va livrer.
S'il y en a un qui refuse de livrer, il y a toujours un autre. Donc ça, c'est aussi le confort des grands acheteurs. C'est qu'ils ont le choix. Et puis ils font jouer la concurrence entre les agriculteurs. Et puis, il n'y a pas une défense suffisante au sein de la profession pour pouvoir vraiment bloquer le système quand on dit stop. C'est finalement pour ça que les sols, ils en souffrent, quoi. Donc là, je pense que le pire, c'est la culture maraîchère où là, on va vers des catastrophes au niveau du sol.
Ouais. Au micro de Catherine Erard, un exemple de cette collaboration scientifique-agriculteur dont vous parliez, Elena Havlicek, en début d'émission. Nous étions à Aubonne, où sa bataille est ferme, entre Raphaël Charles, agronome responsable de l'antenne romande du FIBEL, qui est l'Institut de recherche de l'agriculture biologique suisse, et deux agriculteurs, Christian Streit et Christian Forestier, autour de ces questions d'agriculture biologique, où on se rend compte justement que le bio n'est pas forcément le meilleur ami des sols. Et ça, c'est un peu une des surprises, en tout cas qu'on découvre quand on est néophyte et à l'écoute des reportages de Catherine Erard cette semaine, le bio pose un certain nombre de problèmes pour la qualité des sols.
Je dirais tout pose, dans la mesure où on exploite les sols, ça pose un problème sur la qualité.
Quand on touche au sol, voilà, c'est déjà un problème.
Mais c'est pas une raison. Ce qui est important ici, c'est de gérer les sols. Et ce que j'ai beaucoup apprécié ici, c'est ce côté, faut arrêter avec le dogmatisme. J'ai un très bel exemple qui vient d'une étude qui a été menée sur le canton de Genève sur la qualité, la structure des sols, comment ils sont et leur matière organique. Et les résultats montrent que vous avez des agriculteurs qui exploitent conventionnellement leur sol et qui ont des taux d'humus dans le sol qui sont très élevés et qui ont une très bonne qualité structurale. Alors que certains, alors qu'ils sont sans labour, ont des taux de matière organique qui sont bas.
Comment on l'explique ? C'est la qualité du sol au départ ? C'est la façon de le travailler ?
Alors, ça peut être l'héritage, mais c'est aussi la manière de le travailler. Il n'y a pas une solution qui existe. La solution doit à chaque fois être adaptée au type de sol, au climat, et puis à la culture, le type d'exploitation que l'on veut faire.
Jacques Bourgeois, qu'est-ce qu'ils pensent les agriculteurs de ces scientifiques qui viennent donner des conseils comme ça? Il faut faire attention chaque fois, se poser la question quel sol on a, comment le travailler au mieux. Est-ce que la collaboration est possible ou est-ce qu'il y a une méfiance?
Non, elle doit avoir lieu, cette collaboration. Je crois que c'est important que les scientifiques, qu'il y ait de la recherche qui se fasse dans ce domaine-là.
Qu'ils sortent de leur laboratoire, qu'ils aillent sur le terrain.
Bien évidemment, c'est ce qu'on attend d'un scientifique, surtout lorsqu'on étudie le sol. Donc, qu'ils sortent aussi de temps en temps du laboratoire pour aller sur le terrain.
Mais on a entendu un paysan dire quand même, et je t'ai déjà expliqué plusieurs fois que pour moi c'était pas possible de désherber autrement qu'en passant le tracteur et donc je compacte mes sols. Enfin, on sent quand même que entre les théories et le principe de réalité, il y a quand même là un écart qu'il faut gérer entre scientifiques et agriculteurs.
Oui, pas seulement scientifiques et agriculteurs. Moi, je dirais que cet échange a démontré clairement la complexité. Quel sol lorsque l'on intervient pour pouvoir, je dirais, utiliser ce sol pour une production de denrées alimentaires. Donc, quand on utilise en semi-direct, actuellement en conventionnel, il y a l'utilisation de ce fameux glyphosate qu'on a beaucoup décrié aussi dans le contexte des médias. Je tiens à préciser qu'il y a une réduction de 45% d'utilisation de ce produit-là, mais c'est surtout pour faire face justement à ces fameuses mauvaises herbes qui sont citées dans l'échange que l'on a entendu tout à l'heure. Et certainement qu'à l'avenir, il y aura d'autres technologies qui permettront de se passer du glyphosate pour pouvoir faire des semis après dans de bonnes conditions. Il y a déjà des tests qui vont dans uniquement travailler les premières superficies du sol. Je pense que là, il faut que la recherche soit renforcée dans ce domaine-là et ensuite qu'il y ait justement cette application qui puisse être faite donc au travers de la vulgarisation, au travers de cette collaboration avec les agricultrices et agriculteurs pour travailler au mieux ce sol. Mmh. Maintenant, peut-être juste encore une chose par rapport au niveau de la technologie et d'innovation. On parle aussi d'intervention sur le sol. On voit maintenant aussi, pour réduire notre impact au niveau des produits, utilisation des produits phytosanitaires, on a des robots qui se développent, qui vont traiter les plantes en reconnaissant la mauvaise herbe à détruire. Et dans ce contexte-là, c'est clair qu'il n'y a pas d'utilisation de machines, puisque c'est un robot, ou l'utilisation aussi des drones qui sont utilisés dans des champs de maïs pour lutter contre la pyrale du maïs. Donc on voit qu'il y a une évolution technologique et qu'il faut absolument renforcer cette évolution.
Ça, c'est l'évolution technologique. Est-ce qu'il y a aussi une évolution politique? Si je vous amène sur ce terrain-là, c'est parce que les conclusions du PNR dont vous parliez tout à l'heure, Elena Havlicek, Plan National de Recherche sur la qualité des sols, qui a livré ses conclusions en fin d'année dernière, parlait d'échec politique depuis une vingtaine d'années en ce qui concerne les sols. C'est quand même un mot fort.
Moi, je dirais au niveau politique, il faut déjà, premièrement, véritablement créer ce centre de compétences pédologiques. Je crois qu'il faut absolument que l'on ait une cartographie de nos sols avec la qualité de ces sols pour qu'on puisse avoir une vision d'ensemble, la connaissance de nos sols. Je crois que ça, c'est indéniable et c'est le béaba si on veut améliorer nos sols. Deuxième chose, sur le point de vue politique, comme mentionné, nous allons avoir le débat sur la politique agricole 2022+, avec des mesures avec un module sol, avec des mesures certainement qui seront préconisées au niveau d'améliorer l'humus des sols, d'éviter le compactage de ces sols. C'est des pistes, c'est des systèmes de production qui sont en cours actuellement d'être débattus sur le point de vue fédéral. Voilà. Troisième chose... Oui. Si vous permettez, c'est par rapport au niveau, c'était cité dans l'échange tout à l'heure, des assurances. Et nous sommes d'avis qu'il faut mettre en place un système d'assurance récolte ou d'assurance risque naturel. On sait qu'on est de plus en plus tributaire des risques naturels, sécheresse, gel. Et dans ce contexte-là, comme les pays qui nous entourent, nous pourrions venir en aide, c'est-à-dire subventionner une partie des primes de ces risques naturels, ce qui permet à tout un chacun de se couvrir contre de tels risques. Et ensuite, celui qui ne veut pas se couvrir, il prend ses risques en fonction, ma foi, en tant qu'entrepreneur. Mais je pense que c'est important ici que l'on ait un système de risque d'assurance naturelle qui soit mis en place au niveau politique, pour finir sur cet élément-là au niveau politique qui doit être encore concrétisé.
Pour que les risques naturels ne soient pas sur les seules épaules des paysans, est-ce que les avancées politiques, si on peut les appeler comme ça, Elena Havlicek, vous contente, vous satisfont. Je rappelle que vous êtes la spécialiste des sols, donc est-ce que c'est suffisant ce qui est mis en place, parce que cet échec politique qui est sorti du PNR est quand même un constat assez affligeant.
Oui, c'est un constat. Alors, et qui est accompagné d'une autre déclaration qui dit qu'effectivement on manque de volonté politique pour mettre à disposition les ressources nécessaires. Donc, on parle de ressources financières et on parle de ressources en personnes pour avoir cette politique des sols. Et là, on est tout à fait d'accord avec Monsieur Bourgeois. Le centre de compétences pédologiques qui est en cours d'élaboration. Hein, il va commencer en fait ses travaux d'ici la fin de l'année et son financement a été assuré pour les deux prochaines années pour le mettre en place. Donc ça, c'est déjà une chose qui est bonne. Et de l'autre côté, si vous voulez, cette vision plus globale. Au fond, ce que dit aussi le PNR, c'est qu'on a une absence de vue d'ensemble dans la législation. Et c'est une des raisons pour lesquelles une stratégie sol a été développée, qui a été mise en consultation. Actuellement, on est dans l'évaluation, justement, des retours de cette consultation. Et cette stratégie sol vise justement à avoir cette vision globale. Mmh. Il ne s'agit pas de protéger uniquement les sols agricoles. Il s'agit de gérer, d'avoir une gestion durable de tous les sols, y compris les sols urbains, les sols forestiers qui sont aussi impactés. Et de prendre en compte non pas seulement la fonction de production, mais toutes les fonctions des sols. Mmh. Et ils en ont d'autres, comme je vous le disais au départ, c'est des fonctions dont bénéficie toute la population.
Mmh. Alors une des pistes, oui Jacques Bourgeois, rapidement.
Oui, très rapidement, je crois que le sous-sol, il est de plus en plus exploité aussi. Il est exploité comme ressource, en termes d'énergie, si on prend les pompes à chaleur, par exemple, en termes d'eau, en termes d'éléments minéraux, mais il est aussi en termes de stockage, où on stocke du CO2, par exemple, ou en termes également d'infrastructures. Et à un moment donné, dans ce sous-sol, il faudra aussi avoir une vue d'ensemble et fixer des priorités. Qu'allons-nous faire aussi dans ce sous-sol?
Une des pistes, peut-être, pour ménager les sols agricoles, peut-être de travailler un maximum, plus largement hors sol. Et je vous propose que nous allions auprès d'une start-up, Comba Group, qui est à Molondin, au sein de l'agropole du Nord Vaudois. Ils ont installé une serre prototype de production de salade en aéroponie.
On voit les racines qui pendent, qui sont blanches. Voilà,
blanches.
Il y a de l'humidité.
Vous voyez maintenant le chariot qui approche.
Voilà, au sol, je vois le chariot qui approche.
Le chariot qui approche, qui va donc pulvériser ce brouillard nutritif auprès des racines.
On en reçoit même plein.
Un petit peu, c'est très léger.
C'est une petite brume, c'est
ça. C'est vraiment une petite brume, c'est ça. Voilà, c'est une petite brume. Et donc l'eau qui ne s'accroche pas, on va dire, aux racines, retombe
et on le récupère et on recycle à 97% notre eau. Là, nous avons une étude. Et là, vous avez un coup de couteau et vous avez vu, nous avons perdu, on va dire, 2 microfeuilles et tout le reste est mangeable. Donc, nous avons que 5% de perte. Traditionnellement, la salade est un élément qui perd jusqu'à 70% de matière du champ à l'assiette du consommateur. Il y a zéro pesticide, il n'y a aucun traitement sur nos salades, donc elles n'ont pas besoin d'être nettoyées. Une belle salade à la main.
Je prends une petite feuille là.
Elles sont croquantes. Elles sont bonnes.
Serge Gander, on est quand même dans une serre. Ça veut dire que vous devez chauffer cette serre. Là, il y a quand même un bilan de CO2.
Alors, ça dépend des saisons. Pendant l'hiver, effectivement, on chauffe un tout petit peu. Le bilan CO2, je pense qu'il faut voir sur toute la chaîne alimentaire. On est encore en hiver. Vous avez mangé une salade qui a juste 30 jours, qui a été produite localement, pas de transport. Donc déjà, normalement, 5 à 6 mois par an, dans l'Europe, je dirais moyenne ou nord, importe des salades qui font 2, 3, 4, 5 jours de camion. Après, il y a toute la question de transformation, de nettoyage, qui a besoin aussi beaucoup, normalement, de ressources énergétiques. Donc, le bilan carbone complet, en fait, est extrêmement concurrentiel, on va dire, par rapport à ce qui se passe quand on importe, voire par avion, des herbes aromatiques du Moyen-Orient ou d'Afrique.
Serge Gander, ici, on est dans une serre qui est encore une serre pilote, d'une certaine manière. Vous faites encore des tests, des essais. Est-ce que c'est l'avenir, d'une certaine manière, ce type de culture en aéroponie?
Je pense que c'est une des solutions pour nourrir le monde, en fait. En 2050, 80% de la population mondiale habitera dans des villes. Et en principe, on veut des produits frais. Frais veut dire produits localement, qui n'ont pas 3-4 jours de camion, qui n'ont pas 2 jours d'avion. L'objectif de notre projet, notre technologie, n'est pas de remplacer toutes les terres arables, mais c'est de libérer les terres arables pour les produits qui ont besoin de terres et d'utiliser des terrains qui ne sont plus utilisables aujourd'hui pour produire des produits qui sont attendus par les consommateurs. On veut tous une salade fraîche, même en hiver. On est vraiment dans une optique d'apporter une solution complémentaire à l'agriculture qui est en terre.
Voilà, on cultive des salades, on ne touche pas au sol. Finalement, c'est tout le monde est gagnant. Est-ce que se passer des sols, Elena Havlicek, c'est l'avenir de l'agriculture? Un peu comme on se passe des vaches pour faire des steaks.
Je n'ai pas bien entendu le bilan énergétique total. Et ça, c'est un petit peu
c'est problématique.
Ça, c'est évidemment problématique puisqu'il faut produire les éléments nutritifs, il faut produire ces types d'installations pour ça. Donc, il le dit lui-même, c'est une solution partielle à certains moments. Moi, j'insiste sur le fait que les sols restent indispensables parce qu'ils ne sont pas que la production. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on cherche toujours des solutions technologiques. Tout à l'heure, Monsieur Bourgeois évoquait les drones pour repérer la pyrale du maïs, ou du moins pouvoir traiter. J'aimerais quand même signaler que les maïs, en tout cas pas forcément ceux qu'on cultive aujourd'hui, mais les maïs à l'origine, ils ont un gène qui fait que quand leurs racines sont attaquées par la pyrale du maïs, ils émettent un signal chimique dans le sol, donc un espèce d'appel au secours, qui fait que les prédateurs de cette pyrale se précipitent. Donc vous avez une solution biologique, donc cet écomimétisme. Plus on se rapproche du fonctionnement naturel, moins on a besoin d'énergie extérieure, d'énergie auxiliaire. Je ne dis pas qu'il faut revenir en arrière. Il faut regarder ce qui a fonctionné dans le passé et avec les moyens technologiques, optimiser. Mais miser sur la technologie, c'est une erreur.
Jacques Bourgeois.
Moi, je ne partage pas tout à fait cet avis. Je crois que pas seulement miser 100% sur la technologie, bien évidemment, mais je crois que la technologie va apporter également certaines réponses, notamment, par exemple, ce que j'ai dit tout à l'heure sur ces robots qui viennent sélectionner des plantes pour les traiter. Donc, dans ce contexte-là, on réduit drastiquement, significativement les quantités qui sont utilisées. Par rapport au niveau du reportage qu'on vient d'entendre sur l'aéroponie, hors-sol, ces salades, alors bien évidemment, ça se prête qu'à certains types de production, je crois, les
aujourd'hui,
salades.
Aujourd'hui peut-être, mais peut-être que demain, on pourra tout faire hors-sol.
Non, je crois pas. Rendez-vous compte, les superficies qu'il vous faudrait, si vous mettez l'ensemble de la superficie de notre pays, la production de céréales, nous avons des surfaces de seulement de 438 000 hectares. Rendez-vous compte, un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Donc, c'est énorme.
On peut faire plusieurs étages.
Oui, alors on va faire des tours de je ne sais pas combien de hauteur. Non, ce n'est pas possible. Mais ça se prête quand même à certains types de production.
Et
j'ai eu l'occasion personnellement de visiter cette exploitation il y a quelques temps en arrière. Et je dois dire, j'ai été assez impressionné par le fait, justement, au niveau du bilan, au niveau écologique. Hein. Je ne parle pas d'énergétique parce que, bien sûr, il faut être confiné, il y a des serres pour pouvoir produire ces types de production. Mais si on regarde en termes de gaspillage d'eau, il n'y a pas de gaspillage. En termes de, au niveau écologique, il n'y a pas de traitement. Et en termes de gaspillage alimentaire, tout est consommable. On l'a vu, tout est consommable. Donc,
est-ce que vous avez consommé? Est-ce qu'il y a du goût? Parce qu'une de nos auditrices disait ça n'a aucun goût.
Moi, j'ai consommé. On m'a offert ces salades. J'ai trouvé excellentes. Hein, je ne vous cacherai pas. Et par rapport, effectivement, la personne qui, sous vos ondes, a dit oui, mais le hors-sol, ça n'a pas de goût. C'est pas une question de hors-sol, parce que la technique de la production, elle est suffisamment maîtrisée pour apporter les éléments fertilisants dont la plante a besoin. C'est une question de variété. Souvent, c'est une question de variété qui sont utilisées, qui font le goût aussi du produit. Et ça ne veut pas dire que c'est du hors-sol et il n'y a pas de goût. Donc, la salade était excellente. On a pu tout manger, toutes les feuilles. Et je ne vous cache pas que, oui, on peut être assez impressionné par ce développement. Après, il va se poser toute la question de savoir est-ce que ceci est en conformité avec la zone agricole, ça c'est tout un débat, un autre débat sur lequel on devra se pencher dans la révision de l'aménagement de territoire deuxième version où nous devrons se poser la question de cette conformité ou pas avec la zone agricole.
Depuis l'avènement de cette agriculture post-Deuxième Guerre mondiale, on a travaillé contre le sol. D'abord, on est parti de sols qui étaient plus riches en matière organique, donc on a utilisé ce capital. D'autre part, on a les apports mécaniques, fertilisants, pesticides pour compenser. Donc on est contre le sol physiquement et on est hors sol chimiquement.
Debout sur une chaise, dans un grand champ de fraises, je faisais la synthèse de la situation. Je faisais une thèse sur l'entre-parenthèse et toutes les prothèses de l'imagination. Debout, exprimez-vous les fraises concerné par la situation. Debout, exprimez-vous les fraises qui êtes cultivées pour l'alimentation. Toujours là sur ma chaise, pas toujours à mon aise, je soufflais sur les braises de conviction, espérant qu'une fraise et une autre se plaisent, qu'aucune ne se taise, qu'elle chante avec passion. Debout, exprimez-vous les fraises qui êtes concernées par la situation. Debout, exprimez-vous les fraises qui êtes cultivées pour l'alimentation.
C'était Areski qui nous chantait les fraises pour mettre un terme à ces échos de vacarme. Elena Havlicek, peut-être juste un mot très rapidement. Est-ce que monsieur, madame, tout le monde dans son jardin, même s'il a un tout petit lopin, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour favoriser la qualité des sols?
Oui, et moi je dirais, je vous remercie pour cette émission qui rapproche le sol, même si on le consomme pas directement, il le rapproche justement de tout le monde.
Rapprochons-nous des sols.
Et tout le monde peut faire quelque chose, que ça soit le jardinier ou le consommateur. Nous sommes tous responsables de nos sols.
Jacques Bourgeois, en conclusion, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir des sols?
Je suis toujours optimiste de nature, donc je vais pas être pessimiste, même s'il s'agit des sols, mais il y a des défis à relever et nous sommes prêts à les relever.
Et vous allez batailler au Parlement?
Toujours.
Merci beaucoup Jacques Bourgeois. Je rappelle que vous êtes conseiller national PLR, directeur de l'Union Suisse des Paysans. Et merci à vous Elena Havlicek, collaboratrice scientifique, section sol de l'Office fédéral de l'environnement. Et vous êtes également biologiste, pédologue, on l'aura compris ce matin dans les Échos de Vacarme. Merci à ceux qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Il y avait Catherine Erard, Jean-Daniel Mottet, Stéphanie Coudray, Diane Dufaux, Stéphanie Jovanovic, Jean-Philippe Zvalan et Dominique Stalder. On se retrouve demain dès 13h pour une nouvelle semaine de 5 reportages autour du sexisme à l'hôpital. Après les informations, ne manquez pas Travelling, l'émission cinéma de Catherine Fatbert. Le film du jour, c'est Cris et chuchotements d'Ingmar Bergman et ça date de 1972. Très belle journée, il est 10h sur la première.